merci d'être au rendez-vous. Nous allons revenir sur 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction et nous rendre ainsi au Venezuela, au Cameroun, en Grande-Bretagne ou bien encore aux États-Unis.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Notre invité aujourd'hui est Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, c'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Plaisir est partagé.
À peu près tout le mois et demi, tous les deux mois. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour la synthèse de l'actualité de 2018. Ça paraît déjà très loin, tellement
oui.
Les choses vont...
Lourde synthèse, pour vous.
Vont vite, oui. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, avant de détailler les différentes étapes
Peut-être l'acharnement démagogique d'une partie de la classe politique britannique qui continue à vendre à l'opinion du Royaume-Uni qu'on peut arracher un accord différent de celui que Theresa May a réussi à obtenir avec les Européens. Je ne crois pas que ce soit possible. Alors, je ne suis pas sûr du tout que Theresa May soit persuadée qu'elle peut obtenir autre chose. Mais en même temps, il y a une partie des députés britanniques, et notamment Jeremy Corbyn, le leader travailliste, qui disent qu'on peut faire mieux, qu'on peut obtenir autre chose. Et Boris Johnson aussi, d'ailleurs, qui pourtant était tout à fait d'un autre bord politique, disent la même chose. Et je trouve ça très, très absurde, très déplaisant et très dangereux.
Alors, nous allons en parler dans un instant, mais il y a aussi le Venezuela qui, j'imagine, vous intéresse. Vous suivez ça avec attention. Et je vous propose d'y partir, donc partir pour le Venezuela en pleine crise politique avec ses deux présidents, en quelque sorte, l'élu, même à l'issue d'un scrutin pour le moins contesté, Nicolas Maduro, et le président autoproclamé, en quelque sorte, Juan Guaido, qui subit des tentatives d'intimidation. Reportage par exemple jeudi de notre correspondant Benjamin Delisle.
Au beau milieu de son discours, Juan Guaido reçoit une petite note glissée par un collaborateur. Le public est intrigué, mais l'opposant préfère terminer sa présentation. C'est à la fin du discours qu'il fait monter sa femme sur scène et montre la note au public.
En ce moment même, les forces spéciales sont chez moi, ils cherchent ma femme. En ce moment même, la dictature croit nous faire peur. Nous sommes ici avec ma femme et là-bas, il y a notre fille. Eh bien, nous allons y aller et nous allons tous y aller.
Y salimos todos juntos, estoy seguro.
Tous les députés, le public et la presse se dépêchent de le suivre en direction de son domicile. L'occasion de découvrir que Juan Guaido habite une grande tour dans un quartier loin d'être huppé. Après quelques minutes dans son appartement, il réapparaît devant les caméras. Sa fille est dans ses bras.
Des membres des forces spéciales sont arrivés, deux motos et une camionnette sans immatriculation. Ils ont dit chercher des informations, mais l'objectif est évident, menacer ma famille. Mais nous sommes ici, la tête haute, parce que nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre, on fait ce qu'il faut du côté de la Constitution.
Une opération réussie qui renforce encore les liens entre les partisans de l'opposition et leur nouveau leader, et ce, à deux jours seulement de la prochaine grande manifestation contre Nicolas Maduro.
Grande manifestation qui a lieu donc aujourd'hui à suivre dans nos différents rendez-vous d'information. Parmi les grandes puissances, les États-Unis soutiennent Juan Guaido, tandis que la Russie a choisi, elle, le soutien Nicolas Maduro, avec lequel les intérêts sont grands, et Moscou veut jouer le rôle de médiateur aussi. À Moscou, justement, Daniel Valo.
Sergueï Lavrov affirme en avoir discuté avec la Chine et avec plusieurs pays européens et latino-américains. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, des efforts en vue d'une médiation internationale auraient donc déjà été engagés, mais ils se heurteraient au refus de l'opposition vénézuélienne. Un refus qualifié de catégorique par Sergueï Lavrov, qui y voit la main des pays occidentaux et qui reproche à Juan Guaido son attitude destructrice en la matière. Moscou veut donc jouer la carte du dialogue et de la médiation internationale au Venezuela. Il faut dire que la Russie n'a guère le choix car une intervention militaire est exclue pour venir en aide à Nicolas Maduro. L'enjeu est de taille pour la Russie car Moscou a beaucoup à perdre au Venezuela et en Amérique latine si Nicolas Maduro devait renoncer au pouvoir sous la pression de la rue.
Alors Yann, on va parler des soutiens des uns et des autres dans un instant, mais revenons à ces tentatives d'intimidation du régime qui sont graves.
Oui, de toute façon, on connaît la nature autocratique du régime de Nicolas Maduro qui incarne, après, on peut critiquer le régime de Chavez, et il avait beaucoup de critiques à en faire, mais il avait un respect des procédures qu'il avait même lui-même mises en place. Chavez avait prévu dans la constitution vénézuélienne un référendum révocatoire, dans, sous certaines conditions. Il y en a un qui a été organisé à la demande d'opposition, Chavez a gagné, donc il n'a pas été révoqué. L'opposition a essayé de faire la même chose il y a quelques années avec Maduro, qui a refusé de valider les signatures. Donc, on a avec Maduro une crispation. Maduro est beaucoup moins intelligent, beaucoup moins brillant que l'était Chavez. Encore une fois, Chavez avait beaucoup d'inconvénients. Et là, c'est la camarilla, la caste des gens qui veulent pas lâcher le pouvoir. Donc, on a un pouvoir autocratique classique, je dirais, simplement avec un discours un peu révolutionnaire. Donc, qu'il utilise des méthodes policières, ça n'a absolument rien de surprenant. Maintenant, il faut dire aussi que Guaido, probablement, a un sens de la mise en scène. Et que là, cette idée d'emmener tout le monde chez lui, c'est plutôt habile du point de vue de la communication. Ça n'enlève rien au fait que c'est ignoble d'aller le chercher chez lui et de profiter du fait qu'il est ailleurs pour l'intimider.
Alors face à cette situation politique singulière de deux présidents, ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale essaie de se situer. Laï Touré, qui nous écoute à Dakar au Sénégal, vous demande, Yann, si la Russie et la Chine sont capables de maintenir le gouvernement de Caracas en place, vu le forcing, dit-il, des Américains et dans une moindre mesure des Européens.
Je crois que ce sera personne à l'étranger qui décidera du sort du régime de Maduro. Je ne crois pas que les Américains interviendraient militairement. Bon, je sais que John Bolton a laissé voir son carnet avec 5000 hommes en Colombie, etc. J'ai un peu de mal à croire qu'ils interviendraient militairement. D'ailleurs, Trump déteste les interventions militaires. Il est plutôt en train de retirer toutes ses troupes de partout, d'Afghanistan, de Syrie. Enfin, en tout cas, il prévoit de les retirer. Et comme disait Daniel Valo, la Russie, c'est quand même très loin. Alors, les Russes ont envoyé deux bombardiers, etc. Bon, c'est un peu de la démonstration de force. Ceux qui décideront, à mon sens, du sort du régime, je pense, ce sont les militaires vénézuéliens. Si l'armée bascule du côté de la rue, probablement le régime tombera.
Et c'est pour ça que les partisans de Juan Guaido essaient de séduire, en quelque sorte, l'armée, à commencer par les soldats, les simples soldats.
En fait, la stratégie de Guaido, c'est de dire les gens les plus mouillés, on leur offre une amnistie, les plus mouillés avec le régime de Maduro, on leur prévoit une amnistie globalement, sauf vraiment ceux qui ont commis des horreurs. Et les autres, ben voilà, les autres, vous faites partie du peuple, donc vos familles ont des problèmes alimentaires, vos familles ont des difficultés économiques, vous êtes comme des citoyens ordinaires, donc laissez tomber ce régime qui affame votre entourage. Pour l'instant, ça ne marche pas, et ça ne marche pas dans la hiérarchie militaire, pas seulement parce que une amnistie, une promesse d'amnistie, c'est juste une promesse, on n'est pas obligé forcément d'y croire quand on est général, mais surtout, Maduro a donné des postes économiques où ils peuvent s'enrichir à tout un tas de généraux qui sont notamment chargés de diriger la société des pétroles, la grande société des pétroles vénézuéliens, et qui sont aussi chargés de l'approvisionnement alimentaire, des importations, etc. Tout ça, c'est des occasions de corruption, de s'enrichir. Donc il y a beaucoup de généraux qui ont beaucoup à perdre si jamais ils écoutent les sirènes de l'opposition.
Et certains diront, les partisans de Nicolas Maduro, que Juan Guaido ne respecte pas la Constitution. Alors, il y a tout un débat autour de ça.
Bien sûr.
Est-ce que Juan Guaido est un vrai président, en quelque sorte?
Le problème, c'est que l'arbitre de ce genre de débat, ce serait la Cour suprême. Et la Cour suprême, Maduro y a mis ses gens. Il a enlevé ceux qui étaient défavorables à ses thèses. Donc, effectivement, il n'y a plus d'arbitre neutre dans cette histoire. Et je ne crois pas, pour répondre à la question de l'auditeur encore, je ne crois pas que ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine ne peuvent avoir beaucoup d'influence là-dessus. D'ailleurs, je suis un peu surpris de voir que beaucoup de gens font des menaces en disant, notamment l'Union européenne, si jamais il n'y a pas d'élection, on va reconnaître l'opposition. Très bien, mais ça changera quoi sur le terrain? Personne ne va aller intervenir. Alors, la seule façon, ce serait d'étrangler économiquement le pays. Ça s'est passé dans d'autres endroits. En général, ça soude une partie de la population du côté du régime.
Une population qui souffre déjà suffisamment.
Qui a tout ce qu'il faut. Je rappelle qu'il y a quand même 3 millions de Vénézuéliens qui se sont réfugiés depuis quelques années. Ça fait 10% de la population. C'est comme si en France, 6 millions de personnes quittaient le pays en 3 ans pour aller vivre ailleurs.
Une semaine d'actualité.
Yann, si nous parlions du Brexit, un sujet qui vous intéresse au premier...
Un peu déprimant.
Avec un rebondissement mercredi, encore un, puisque finalement les députés ont autorisé Theresa May, la Premier ministre, à renégocier, mais à une condition, à Londres, Muriel Delcroix.
Une majorité de députés britanniques ont donc fait savoir qu'ils pourraient accepter l'accord de compromis de Theresa May si et seulement si la Première ministre arrache à l'Union européenne un changement de taille, la modification du backstop. Une décision dont s'est félicitée la dirigeante ainsi que nombre de ses députés, dont le flamboyant brexiteur Boris Johnson.
Ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui est assez merveilleux. Notre parti uni donne un mandat à Theresa May pour obtenir un meilleur accord et croyez-moi, elle peut y arriver. Ce qui oblige obligera l'Union européenne à changer d'avis, c'est que nous sommes un immense partenaire commercial.
Mais si cette unité retrouvait le temps d'un vote réjouit les conservateurs, côté Remainers, on est plutôt catastrophé. Écoutez la députée du SNP écossais, Kirsty Blackman.
C'est une décision complètement folle de la part du Parlement. Je ne comprends pas comment la Première ministre s'est retrouvée dans cette position. Nous sommes si proches du Brexit. Comment est-ce possible d'en être seulement à ce stade? Demander une extension de l'article 50 est la seule chose qu'elle puisse faire désormais.
Theresa May affirme pourtant pouvoir renégocier avec Bruxelles, qui a d'ores et déjà refusé. Un parfait dialogue de sourds à seulement 2 mois du Brexit.
Alors, négocier avec l'Europe, Yann, d'accord, mais négocier quoi à propos de l'Irlande et avec qui? À Bruxelles, mercredi, Pierre Benazé.
Pour les Européens, voir Theresa May revenir sur le continent pour essayer de remettre en cause le filet de sécurité pour l'Irlande n'est tout simplement pas acceptable. Il n'y a pas d'autre choix que de maintenir tel quel ce filet de sécurité, surnommé « backstop » en anglais. Michel Barnier, négociateur de l'Union Européenne.
Nous ne ferons rien qui conduise à compromettre l'avenir de l'Union Européenne. Nous avons besoin de ce backstop, qui est une assurance que nous ne souhaitons pas utiliser, comme d'ailleurs votre propre assurance dans votre appartement, votre maison, mais qui est là, si jamais nous en avions besoin.
Et pour le président de la Commission européenne, le vote des communes renforce le risque d'une sortie sans accord. Jean-Claude Juncker.
Nous devons continuer à tout faire pour nous préparer à tous les scénarios, y compris le pire. Et ces dernières semaines, nous avons accéléré nos préparations. J'ai envoyé une équipe dans chaque capitale pour aider les États membres à être prêts.
En préparation d'une sortie du Royaume-Uni sans accord, 18 propositions législatives sont déjà sur la table, avec, par exemple, ce mercredi, des dispositifs pour préserver la sécurité sociale, le budget européen ou le programme Erasmus.
Suite d'une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Mince, notre ami Yann Mince, journaliste à Alternative Économique, où il suit particulièrement les questions internationales et plus particulièrement la question du Brexit, où vous écrivez dans chaque numéro une analyse. Et dans le numéro de février qui vient juste de sortir, avec en une le retour des héritiers, c'est pas pour vous ça, non?
Non, pas trop. Enfin, pas des gros héritages en tout cas.
Vous signez un article qui s'intitule « Brexit, trop de choix tue le choix ». Quel est votre regard sur ce énième rebondissement de cette semaine?
Je crois que c'est un enfumage total. C'est-à-dire que je ne crois pas, contrairement à ce qu'elle dit, que Theresa May pense qu'elle puisse obtenir mieux que ce qu'elle avait déjà obtenu. D'ailleurs, Michel Barnier, qui négocie pour l'ensemble des Européens, lesquels, pour une fois, sont soudés, oui, il faut le souligner,
la position est claire,
a dit non, et non, et non, et non. Donc, elle a laissé, comme elle s'était fait rejeter son accord il y a quelques semaines, ou il y a 15 jours, elle a dit au Parlement, bon, très bien, qu'est-ce que vous voulez? Le Parlement dit, on voudrait ça. Enfin, la majorité lui a dit, on voudrait ça, cette renégociation de ce fameux backstop. Et elle a dit, OK, je vais y aller voir. Et elle n'aura même pas tellement l'occasion d'y aller, puisque les Européens lui ont déjà dit non. Donc, je crois qu'elle joue l'usure et qu'elle pense que, voyant la perspective du no deal, ça veut dire que la Grande-Bretagne sortirait sans accord. Du point de vue douanier, du point de vue réglementaire, ce serait très compliqué.
Rappelons que l'échéance est fixée au 29 mars.
Voilà. Le 29 mars après. Elle pense que finalement, la majorité des députés britanniques vont dire le contraire de ce qu'ils ont dit il y a 15 jours. Et ceux qui laissent entendre que le fameux backstop peut être modifié, à mon avis, font un mensonge ou alors s'illusionnent. Quand j'entends Boris Johnson dire « Nous sommes un tellement grand partenaire commercial pour l'Union Européenne qu'elle va finir par céder », je crois qu'il se met le doigt dans l'œil.
Alors le backstop, on a besoin de vos lumières, Yann, parce que la discussion devient très technique à ce stade des négociations, ou pas d'ailleurs, avec l'Union Européenne. Qu'est-ce que le backstop,
il faut se rappeler qu'en 1998, il y a eu un accord pour mettre fin à la guerre en Irlande du Nord. Donc, je rappelle pour nos auditeurs qui n'ont pas la carte de l'Europe en tête que l'Irlande du Nord est un territoire britannique et qui, dans la grande île d'Irlande, le sud est occupé par la République d'Irlande et le nord par un territoire qui appartient au Royaume-Uni. Donc, dans lequel il y a eu pendant plusieurs décennies un conflit, que sanglant. Ce conflit a pris fin très sanglant avec des attentats et tout ce qu'on veut, qui a pris fin en 98 avec des accords, on appelle l'accord du Vendredi Saint. Ils ont permis que la frontière soit fluide, puisqu'on était entre le Royaume-Uni et l'Irlande et que les deux pays font partie de l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, les gens traversent, vont travailler, s'installent d'un côté et de l'autre, etc. La grande crainte d'une partie des Britanniques, mais surtout des Européens et surtout des Irlandais, du Sud, je veux dire de l'Irlande, c'est que si la frontière devait être fermée parce que l'accord, il n'y a pas d'accord suffisamment souple entre le Royaume-Uni et l'Irlande, que le conflit reprenne.
Oui.
Et donc, dans l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour le fameux Brexit, on a prévu ce backstop. C'est cette clause qui dit, quel que soit l'accord, qu'on arrive à un accord ou pas, il y aura au minimum une union douanière provisoire.
Le mot est important, provisoire.
Entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour que cette frontière ne soit pas ce qu'on appelle une frontière dure, c'est-à-dire effectivement il y ait les contrôles, les gens puissent pas traverser au quotidien, puissent pas aller travailler de l'autre côté, etc. Et cette clause provisoire, une partie des députés britanniques, notamment conservateurs, ont peur qu'en fait elle devienne définitive. Donc ils veulent, ils ont demandé cette semaine à ce que l'accord soit renégocié pour qu'on mette la possibilité que le Royaume-Uni puisse la révoquer quand il veut ou qu'il y ait une date de fin prévue et non pas qu'elle soit indéfiniment provisoire. Et c'est ça qui bloque, mais les Européens ont dit, nous, on ne veut pas prendre le risque et donc on veut cette union douanière.
Sept jours dans le monde.
Partons pour les États-Unis maintenant, Yann Mince, avec la fin du shutdown, ce blocage de l'administration qui a coûté cher au pays. Washington mardi, Anne Corpé.
Sur les 11 milliards de dollars de pertes de revenus imputées au shutdown, 3 milliards de dollars sont définitivement perdus. Privés de paye pendant 35 jours, 800 000 employés fédéraux ont réduit au maximum leurs dépenses, mais une fois leur traite payée après le remboursement de leurs arriérés, ils devraient continuer à dépenser avec prudence. La menace d'une nouvelle paralysie partielle le 15 février n'est pas écartée. La fermeture de nombreuses agences fédérales a aussi eu des effets sur le secteur privé. Elle a entraîné des pertes nettes de revenus pour les nombreux prestataires de l'administration et ce déficit d'activité ne sera pas compensé. À cause de la paralysie partielle du gouvernement, il a par ailleurs été impossible pendant plus d'un mois d'obtenir certains permis fédéraux et l'accès aux prêts octroyés par le gouvernement a été limité. Selon le rapport, ces retards risquent d'entraîner des reports d'investissement et d'embauches. À l'issue du plus long shutdown de l'histoire des États-Unis, les prévisions annuelles de croissance pour l'économie américaine ont été revues à la baisse de 0,2%.
Alors vous signez aussi un papier, un article dans ce numéro d'Alternative économique, Yann, sur le sujet, article intitulé « Fonctionnaires pas payés ». Il faut noter que certains d'entre eux ont continué à travailler sans être payés d'ailleurs.
Oui, en fait, alors c'était un shutdown partiel, contrairement à celui de Clinton, qui était un shutdown complet. Donc ce qui veut dire qu'une partie des administrations avaient vu leur budget voté par le Congrès et les autres non. Ce sont les deuxièmes qui ont provoqué cette réaction de Donald Trump, qui a dit « si j'ai pas le financement de mon mur, eh bien je ferme le gouvernement sur cette partie-là ». Et donc, il y a dans ces fonctionnaires dont les services étaient fermés, il y en a certains qui on a dit « vous pouvez rentrer chez vous, mais vous ne serez pas payés », en tout cas pas avant la fin du shutdown, et d'autres, on a dit « à vous, vous êtes essentiels », par exemple les contrôleurs aériens, et vous allez continuer à aller travailler, mais sans être payés. Et évidemment, ça a donné des situations ubuesques, et c'est là que je me suis aperçu, en écrivant l'article, j'avais pas vu à ce point-là, que je me suis aperçu à quel point beaucoup d'Américains vivent au jour le jour et que pour beaucoup d'entre eux, quand arrive le paiement, tous les 15 jours, en l'occurrence aux États-Unis, pas tous les mois, eh bien, ils n'ont plus d'argent. Et donc, un certain nombre d'entre eux se sont retrouvés à aller faire la queue aux banques alimentaires et aux organisations humanitaires qui, quelques semaines avant, donnaient de l'aide aux victimes des incendies de Californie. Donc, on a vu des gens qui travaillent, qui ont un travail, une maison, qui ont été obligés d'aller faire la queue ou de chercher des petits boulots pour boucler les fins de mois, etc., etc., ou de faire des travaux ménagers parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer.
Alors, il faut noter sur le plan politique que Donald Trump n'est pas prêt de voir son mur, a priori, parce que Nancy Pelosi et les démocrates de la Chambre des représentants s'y opposent fermement.
Il a brandi dans le New York Times hier une menace qu'il avait déjà brandie, mais qu'il a ressortie, je ne sais pas s'il le fera, qui est d'invoquer les pouvoirs de National Emergency, d'urgence nationale, en considérant que l'immigration est une situation d'urgence nationale.
Voilà qu'il le prouve.
Et ensuite de pouvoir pomper sur le budget de certains ministères et notamment la défense. Donc ça veut dire qu'il prendrait 5 milliards sur le budget de la défense pour faire son mur, ce qui est absurde.
Et il faut aussi noter que Donald Trump a critiqué ses propres services de renseignement cette semaine sur l'Iran, la Corée du Nord et sur l'État islamique.
Il leur a même demandé de retourner à l'école.
Oui, c'est ça. Ils doivent retourner à l'école, ce sont des grands naïfs.
Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de sa pensée et de ses prévisions.
Une semaine d'actualité.
Et nous avons beaucoup parlé, Yann, des Gilets jaunes, samedi dernier, avec notre invité Joseph Confavreux. Parlons aujourd'hui des foulards rouges qui ont défilé dimanche dans les rues de Paris pour la défense de la démocratie, selon eux menacée, et contre la violence aussi. Reportage de Franck Alexandre.
En tête de cortège, une Marseillaise est entonnée à plein poumon. « Stop à la violence », dit la banderole, « Stop à la casse », ajoute Philippe Lost, porte-parole des foulards rouges.
Ben, c'est d'arrêter toutes les manifestations avec la violence qui chaque week-end on subit. Et effectivement de défendre notre république et démocratie qui est attaquée également par des mouvements fascisants.
Retraités, salariés, artisans, les profils sont divers et ils sont venus de toutes les régions de France pour manifester leur exaspération face au mouvement des Gilets jaunes.
Touche pas à ma République !
Ouais ! Ouais ! Bah, notre message, c'est qu'on est tous ensemble, on est dans un très très beau pays, qu'on le fasse tourner, les gens ont envie d'entreprendre et que les problèmes sociaux ne se régèrent pas forcément la rue.
Ras-le-bol de toute cette violence-là depuis 11 semaines, que les choses s'apaisent.
Au cœur du cortège, quelques élus de la majorité présidentielle, discrets, mais de nation à Bastille, ils étaient plus de 2000 foulards rouges à battre le pavé. Un succès, estiment ces manifestants, qui veulent être les porte-voix de la majorité silencieuse.
Alors parmi les revendications des Gilets jaunes, cette fois il y a l'abandon de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Et pourtant, selon le Premier ministre, initiateur et défenseur de cette mesure, cette limitation a sauvé des vies. Il a avancé des chiffres cette semaine, Grégoire Sauvage.
Jamais il n'y a eu aussi peu de morts sur les routes françaises. Selon les chiffres annoncés par le Premier ministre Édouard Philippe, 3259 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en 2018, soit 189 personnes de moins qu'en 2017. Par ailleurs, depuis le 1er juillet, 116 vies ont été épargnées sur le réseau routier concerné par l'abaissement de la limitation de la vitesse de 90 à 80 km/h. Pourtant, cette mesure est sous le feu des critiques, très impopulaire auprès des automobilistes et des élus locaux. Le président de la République a laissé la porte ouverte à des dérogations. C'était lors du lancement du grand débat national. Emmanuel Macron avait laissé entendre que les présidents de conseils départementaux et les préfets pourraient choisir de revenir sur cette règle. Selon le gouvernement, ces bons chiffres de la sécurité routières auraient pu être encore meilleures, 60 vies supplémentaires auraient pu être épargnées entre novembre et décembre. Le gouvernement met en cause la multiplication des dégradations de radars qui ont accompagné le mouvement des Gilets jaunes.
Suite à une semaine d'actualité, nous allons parler de ces foulards rouges, si vous voulez.
Avec plaisir.
Oui. Que pensez-vous de cette réaction qui...
Bon, d'abord, ça me semble assez logique que, effectivement, des gens qui, notamment des gens qui vivent pas à Paris, mais même des gens qui vivent à Paris, qui ne voient du mouvement des Gilets jaunes que ce qu'en montre une partie des médias, c'est-à-dire les dégradations, ce qu'il y a de plus spectaculaire. Tous ces ronds-points où il ne se passe rien de particulier, où des gens protestent, on ne les voit pas à longueur d'émission. On voit ce qui est le plus spectaculaire. Le plus spectaculaire, c'est forcément les violences. Donc, je pense qu'il y a un effet un peu déformant qui fait qu'il y a des gens qui ont l'impression que le mouvement des Gilets jaunes se réduit à sa frange la plus radicale, la plus violente, la plus insurrectionnelle, la plus fascisante, même pour reprendre un terme, même si ce terme est toujours un peu ambigu et suspect. En revanche, la menace contre la démocratie, là je suis beaucoup plus partagé, parce que d'où vient la menace sur la démocratie ? Est-ce qu'elle vient d'un pouvoir extrêmement centralisateur, où l'exécutif a tous les pouvoirs, ou est-ce qu'elle vient d'un mouvement qui réclame une démocratie plus ouverte, plus participative, plus délibérative, on peut prendre des termes qu'on voudra, ils ont chacun un sens différent. Moi, ce qui me frappe dans ce débat sur la démocratie, c'est que le grand absent du grand débat, je dirais, c'est le Parlement. C'est-à-dire que...
C'est pourtant là que devrait avoir lieu un débat.
En tout cas, c'est pourtant là que devrait avoir lieu une partie des débats. Ouais. C'est pas exclusif, on peut avoir des débats sous forme référendaire, on peut discuter du référendum, ça a des avantages et inconvénients, des assemblées tirées au sort, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ça a bien marché en Irlande, notamment, dont on parlait tout à l'heure pour un autre sujet. En revanche, le Parlement ne semble pas être dans les réformes, sauf pour réduire le nombre des parlementaires, ce qui est significatif, dans les idées proposées, les pistes proposées par Emmanuel Macron. Et j'ai pas l'impression que du côté des cahiers de doléances, il y ait beaucoup non plus d'intérêt pour le Parlement. On a réussi à discréditer, ou ils se sont discrédités en partie eux-mêmes d'ailleurs, les parlementaires, et je trouve ça très dommage que c'est le principal contre-pouvoir, je crois.
Oumar, qui nous écoute à Conakry, se demande pourquoi Macron n'arrive-t-il pas jusqu'à présent à mettre fin à la crise des Gilets jaunes. Fin de citation.
Je pense parce qu'en partie, c'est une crise plus ancienne que lui. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'a pas complètement tort quand il dit que, oui, en gros, il paye les pots cassés d'un héritage un peu long. Mais je crois aussi, et j'avais déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, je crois, qu'il paye son style. Quand on se présente comme le nouveau Jupiter, quand on concentre toute l'attention sur soi, eh bien, effectivement, quand on déçoit, c'est encore plus compliqué de revenir en arrière et d'inverser la charge de la preuve. On voit bien qu'il rame à contre-courant. Il voulait pas trop parler aux journalistes, etc. Enfin, en fait, il parlait assez souvent aux journalistes quand même. Mais contrairement à Hollande, il voulait pas trop se mêler au monde. Et là, il a été obligé, après avoir fait les rencontres avec les maires, de s'inviter dans une rencontre un peu plus citoyenne, on va dire, et donc de discuter directement avec les gens. Alors que, si vous vous souvenez de ces séquences prises sur le vif, il avait souvent des formules assez désagréables, voire méprisantes, quand il était confronté à de ces plans citoyens. Je pense qu'il y a une question à la fois de fond, tous les problèmes de la France qui se sont accumulés, qui n'ont pas été réglés. Il y a un problème de fonctionnement démocratique. Et ça, Macron a une responsabilité parce qu'il a chaussé les chaussures les plus restrictives de la Ve République. Et puis, il y a son style. Son style, je crois, qui déplaît pour des bonnes et mauvaises raisons. Mais comme disait Coluche, il a une tronche de premier de la classe et tout le monde n'aime pas ça.
Actualité française de toujours, Yann. J'aime bien votre citation de Coluche.
C'était pour les présentateurs du journal télévisé. Ouais.
Avec le droit d'inventaire exercé cette fois par le Parti Socialiste, inventaire du quinquennat Hollande dressé par le premier secrétaire des Socialistes, Olivier Faure, cette semaine, Marine de la Moissonnière.
Ce discours n'est pas un testament, insiste Olivier Faure, et justement pour sauver le PS, il ne faut pas accepter tout l'héritage de François Hollande. Certes, de bonnes choses ont été faites et le premier secrétaire s'y attarde longuement. Certes, les responsabilités sont partagées, mais le patron des socialistes n'est pas tendre avec l'ancien président.
Le changement, sans autre forme de définition, renvoyait à une ambition trop floue et trop large, sans projet de société vraiment explicite. Chaque mesure adoptée a été vécue comme le point final de nos ambitions.
Parmi ces réformes, Olivier Faure en pointe deux, la loi travail et la déchéance de nationalité, synonyme de trahison selon lui.
En prenant les Français à revers, nous sommes devenus, pour nombre d'entre eux, insaisissables. En sortant de notre socle de valeurs, nous avons perdu ce bien tellement précieux, qui est celui de la fiabilité.
Dans la salle, l'ancien frondeur Laurent Baumel applaudit.
En écoutant ce qui était dit sur le CICE, la loi travail, je m'entendais moi-même il y a quelques années. Moi, ce que j'ai apprécié dans le discours d'Olivier Faure, c'est qu'il a resitué le débat sur le terrain des valeurs et de l'identité.
En prenant ses distances avec le quinquennat précédent, Olivier Faure espère convaincre la gauche de s'unir. Il a conclu son discours par un appel au rassemblement pour les européennes.
François Hollande, l'ancien président, qui a été entendu par le juge en charge de l'enquête sur l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon le 2 novembre 2013, on l'a appris cette semaine, alors que les familles et les amis de Ghislaine Dupont s'interrogent à propos d'une écoute téléphonique. Julie Vandal, mardi.
Au cœur des questions et des doutes des familles de victimes, il y a un échange téléphonique intercepté entre un homme soupçonné d'être l'un des commanditaires et un exécutant. Cette écoute, François Hollande en avait parlé de manière informelle à un journaliste de RFI il y a 5 ans. Puis en octobre dernier, l'ancien directeur de la DGSE, Bernard Bajolet, a été interrogé sur cette question par plusieurs journalistes de RFI. Là encore, la discussion se déroule hors micro. Mais l'ex-chef des renseignements affirme qu'il connaît cette écoute et que c'est son service qui avait alerté la présidence à l'époque. Devant le juge, François Hollande et Bernard Bajolet sont revenus sur ces propos il y a quelques semaines. L'ancien président a dit ne pas se souvenir de sa conversation avec le journaliste. Quant à l'ex-patron de la DGSE, il a déclaré qu'à sa connaissance, l'écoute téléphonique n'existait pas. « On nous prend pour des imbéciles », résume le porte-parole de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. « Ces contradictions entretiennent le doute », expliquent les familles des victimes qui réclament toujours davantage de clarté et de transparence.
Sept jours en France.
Parlons maintenant, Yann, du projet de forte augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Elle a été fortement contestée cette semaine par les députés qui ont écouté la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, Pierre Firsion.
Pendant près de 2 heures, les députés de la Commission des Affaires étrangères ont dit tout le mal qu'ils pensaient de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires. Gidel Guérab, représentant les Français d'Afrique du Nord et de l'Ouest, a fait part des mauvais retours de terrain.
J'ai eu le plaisir de rencontrer même des chefs d'État, le chef d'État guinéen, le chef d'État sénégalais, et eux-mêmes m'ont dit l'effet va être évident. Madame la ministre, je vous le dis, l'effet, il est clair, net et précis, c'est un effet repoussoir.
Un effet repoussoir qui aura un coût en termes d'image, a estimé de son côté le député La République En Marche, Jacques Maire.
Les conséquences en termes de perception des opinions des pays avec lesquels nous avons le rapport le plus intime seront immédiates et irréversibles.
Des élus de la majorité qui n'ont pas caché leur exaspération de ne pas avoir été associés à la préparation de ce texte. Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères.
On est toujours dans un moment démocratique difficile quand le Parlement et cette commission, par exemple, mais d'autres aussi peut-être, apprennent des décisions qui tombent un peu du ciel.
Plusieurs députés ont alors demandé à la ministre de suspendre la mesure, ce à quoi Frédéric Vidal a opposé une fin de non-recevoir.
Le gouvernement exclut toute remise en cause de la stratégie Bienvenue en France parce que c'est un réel devoir collectif que de mieux accueillir tous les étudiants qui choisissent la France.
Seule concession faite par la ministre, l'accord donné à la mise en place d'une mission d'information sur le sujet.
Alors cette histoire d'augmentation des frais de scolarité à l'université intéresse évidemment beaucoup nos auditeurs et qui ne comprennent pas.
J'imagine.
Ils comprennent le principe, mais
pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout c'est à la fin, je vais revenir ensuite à votre question, mais c'est l'illustration du fonctionnement du Parlement en France. C'est-à-dire une commission importante du Parlement, des Affaires étrangères, dit le ministre, on n'est pas d'accord, le ministre dit, tant pis pour vous. On est vraiment dans l'illustration de la Ve République, dans ce qu'elle a de pire, et dans sa version macronienne, en l'occurrence. Évidemment, les Africains sont inquiets. Et je dirais que cette décision est, en plus, probablement stupide du point de vue économique. Je m'explique. Si on ne forme pas des étudiants africains en France, les étudiants africains, ils se feront offrir des bourses par la Chine, par la Turquie, par les États-Unis. Or, on sait bien que des gens formés dans une langue ont tendance à faire ensuite des affaires, du business, avec des gens qui parlent cette même langue, des industriels de ce pays, etc. Donc, moins il y aura d'Africains en France, moins il y aura d'opportunités. Je ne veux pas être cynique non plus. Évidemment, c'est important que les Africains se forment pour eux-mêmes. Mais même du point de vue de l'intérêt français, je dirais, si je veux être un peu réalos, comme on dit, à long terme, même du point de vue de l'intérêt du business français, ne plus former d'Africains, ça veut dire ne plus avoir autant de facilité pour faire des affaires en Afrique. Même du point de vue de l'intérêt de nos autorités, je trouve que c'est une décision très très absurde. Elle vise simplement à attirer quoi ? À essayer d'attirer les étudiants de pays qui ont les moyens de payer plus cher, donc ça veut dire attirer des étudiants chinois, éventuellement indiens, mais surtout chinois, des pays émergents, pour qu'ils n'aillent pas trop aux États-Unis, parce qu'il y a cette angoisse des autorités françaises que les étudiants chinois aient aux États-Unis et pas en France.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. Je salue ce matin Fiston qui nous écoute au Togo et plus précisément dans la commune d'Abadawere, une commune bien connue des habitants du Togo. Bonjour à Jérémy à Kinshasa, à Poséidon Migon au Tchad, à Mahamadi à Bamako, Luc à Abidjan, Cocody, Jack au Rwanda, Jules au Togo, Jean-Baptiste à Yaoundé, et je n'oublie pas non plus Samine, qui lui nous écoute au Tchad, à N'Djamena, qui salue sa famille et ses enfants, Richesse Samine, Fort Junior Samine, Muriel Samine, Excellence Samine et Noblesse Samine. Donc bonjour à toute la petite famille.
Une semaine d'actualité.
Partons donc pour l'Afrique maintenant, Yann, au Cameroun précisément, avec l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto qui était arrivé, rappelons-le, à la deuxième place de la dernière élection présidentielle en octobre dernier et son interrogatoire mercredi, Anne Cantoner, ce jour-là.
Les policiers auraient voulu interroger Maurice Kamto dès mardi, mais ce dernier avait refusé de répondre en l'absence de ses avocats. L'audition a donc eu lieu hier, dans un climat serein, explique la défense de l'opposant. Maurice Kamto a répondu à une vingtaine de questions concernant les manifestations organisées samedi dernier, ce qu'il appelle des marches de résistance. Il a également été interrogé sur le saccage de bâtiments diplomatiques. Les autorités camerounaises considèrent que les dégradations commises dans les ambassades de Yaoundé en France et en Allemagne samedi dernier sont le fait de
militants du MRC. Comme Maurice Kamto, les détenus arrêtés lors des manifestations du week-end passé sont également accusés de rébellion et d'insurrection. Environ 40 personnes ont été entendues hier, selon les avocats de la Défense, dans différents lieux de Yaoundé, au groupement spécial d'opération, au groupement mobile d'intervention ou encore au secrétariat d'État à la Défense où se trouvent deux blessés, d'après le collectif d'avocats. Ils regrettent d'ailleurs de ne pas avoir pu rendre visite à Célestin Djamen, membre du MRC, blessé lors de l'intervention de la police à Douala samedi dernier et interpellé à l'hôpital au début de la semaine avant d'être transféré à Yaoundé.
À suivre, bien entendu, dans nos journaux et sur le site de RFI, www.rfi.fr. Direction le Burkina Faso maintenant, Yann Mince, pour revenir cette fois sur deux attaques djihadistes cette semaine dans l'est et le nord du pays. S'agit-il d'attaques coordonnées? Kaël Alex.
Les deux attaques commencent par des tirs de roquettes, puis des hommes à moto ou en 4x4 lourdement armés montent à l'assaut. À l'arrivée des renforts, les assaillants se replient aussi vite qu'ils sont arrivés. Des témoins affirment que les terroristes de Nassoumbou sont repartis vers le Mali voisin. Depuis l'année dernière, les raids de la force française Barkhane et de l'armée malienne ont porté un sérieux coup au GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont certains membres se seraient repliés vers le nord du Burkina. Les groupes armés de l'est du pays seraient plutôt issus d'Ansar ou l'islam, mouvement djihadiste du Soum soutenu par l'État islamique au Grand Sahara. Les deux groupes se coordonnent très bien, explique Mahamoudou Savadogo, consultant sur la gestion des risques. Ils échangent des éléments aux compétences élevées en explosifs, par exemple, qui forment les autres combattants. La période est charnière pour le Burkina Faso. Nouveau gouvernement, nouveau chef d'état-major, future présidence du G5 Sahel. Dans l'œil du cyclone, les autorités doivent encore démontrer à la population et à leurs partenaires qu'elles peuvent faire face à la menace djihadiste.
Et cette insécurité dans le Sahel augmente le nombre de déplacés au Mali, singulièrement. Yann, il serait quelque 120 000 dans tout le pays, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Suite d'une semaine d'actualité, plus que jamais la tension au Burkina Faso.
Oui, et ça fait plusieurs années qu'effectivement il y a des attentats dans les provinces du Burkina, puis des attentats aussi, on s'en souvient, à Ouagadougou, avec toujours ces groupes dont il est compliqué de savoir jusqu'à quel point ils se coordonnent, ouais. Ils s'échangent des spécialistes, des techniciens, des coachs en attentat, si je puis dire. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que visiblement l'armée burkinabée n'arrive pas à en venir à bout. Je lisais un document très intéressant de International Crisis Group, qui est un centre de réflexion, ouais. Qui disait notamment qu'il serait peut-être utile de rapatrier du Mali des soldats tchadiens qui sont là-bas dans les forces des Nations Unies pour qu'ils puissent s'occuper de ce qui se passe au Burkina Faso, mais ça demande aussi de les remplacer au Mali par d'autres troupes, donc ça veut dire qu'il faudrait que le secrétaire général des Nations Unies lance un appel aux bonnes volontés. C'est toujours assez compliqué, on le sait, mais il est évident qu'il y a tout un tas de problèmes sociaux probablement qui ont été négligés, que les djihadistes savent très bien se glisser dans ce genre d'interstices, les régions oubliées, les populations marginalisées, et qu'ils trouvent sinon un appui, du moins une bienveillance ou une tolérance mêlée de crainte souvent. On l'a vu dans d'autres pays, en Afghanistan, les talibans sont pas forcément populaires. Mais parfois, ils font des choses, ils apportent des prestations de justice un peu expéditives qui satisfont la population.
Alors, à propos des djihadistes français qui sont cette fois en Irak et en Syrie, il faut noter un changement de cap. Yann, vous l'avez noté aussi cette semaine, puisque la France semble d'accord pour le rapatriement de ses ressortissants. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 130 arrêtés aux mains des Kurdes, et un peu plus de 200 seraient encore en liberté. Et parmi les 130 aux mains des Kurdes, il y a essentiellement des femmes et des enfants parmi ces Français. Un commentaire sur ça,
bah, d'abord,
sur ce changement de cap?
D'abord, qualifier des enfants de djihadistes, c'est toujours un peu compliqué, parce que ce sont des enfants de djihadistes, mais pas forcément des enfants djihadistes. Je tiens à la nuance, ouais. Pour en avoir rencontré en Libye des enfants de djihadistes, c'était des petits bouts qui avaient certains 2 ou 3 ans, on ne peut pas les qualifier
des enfants
de djihadistes.
Comme les autres.
Voilà, tout à fait. Ouais. Peut-être avec des traumatismes plus lourds, ouais. Mais en tout cas, pas des enfants djihadistes même. Non, je crois qu'il n'y a pas tellement un changement de pied de la France sur ce sujet. C'est surtout que les Kurdes ont dit, si Erdogan nous attaque puisque les Américains et les autres se retirent, eh bien, nous, on va pouvoir garder tous ces gens-là qu'on a dans nos geôles, donc on va vous les rendre. Ou alors on les disperse, ou alors on les lâche. Et la France n'a pas très envie qu'ils soient dispersés à la nature. Et donc elle dit, à ce moment-là, il faut qu'ils les reprennent. La France n'avait pas très envie, évidemment, de les reprendre. Elle était très contente de sous-traiter ce problème aux Kurdes. Et maintenant, il va falloir les reprendre, les juger. Et ce qui est compliqué, je trouve, dans ces cas-là, c'est de savoir Quel est l'état psychologique de ces gens quand ils reviennent? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que ce sont des gens, ils sont clairement, ils ont été battus sur le terrain? Est-ce qu'ils sont déçus, désespérés? Est-ce qu'ils pensent qu'ils se sont fait avoir dans ce combat? Est-ce qu'au contraire, ils veulent continuer le combat sous d'autres formes ici? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'oublier absolument tout ça? On sait bien que dans toutes les guerres, les anciens combattants ont des rapports extrêmement différents au combat passé. Certains veulent ne plus entendre parler, ne plus jamais faire ce genre de choses, et d'autres au contraire veulent continuer la guerre. Et ça, c'est une, je dirais que c'est une évaluation au cas par cas qui sera extrêmement compliqué à faire, quel que soit par ailleurs le traitement judiciaire qu'on leur réserve.
Alors, Yann, revenons sur le continent africain et parlons du Cameroun, hein, parce que il s'est passé quelque chose d'important cette semaine avec l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto.
Oui, on est dans le classique comportement du pouvoir de Paul Biya, c'est-à-dire qu'il a laissé faire, il a tripatouillé la présidentielle, il a laissé un candidat avoir un petit score, et puis maintenant il règle ses comptes un peu plus discrètement, parce que une fois que la présidentielle est passée, il n'y a plus beaucoup de monde en dehors du Cameroun qui s'intéresse forcément à ce qui se passe. Il faut dire que le Cameroun a d'autres soucis sécuritaires. Mais j'étais très, très frappé de voir dans les chefs d'inculpation de Maurice Kamto, le chef d'inculpation d'hostilité à la patrie. Alors je serais curieux de savoir ce que c'est que ça, l'hostilité à la patrie. Je sais qu'il lui est reproché, et lui nie la responsabilité, le saccage partiel en tout cas de l'ambassade du Cameroun à Paris.
Parce qu'il faut rappeler qu'il y a juste une semaine, il y a eu de grosses manifestations au Cameroun.
Et notamment et le saccage à Paris de l'ambassade, enfin une partie. Oui. Et donc il est accusé par les autorités camerounaises d'avoir piloté ça, ce qu'il nie. Mais en tout cas l'hostilité à la patrie, je serais quand même curieux de savoir ce que ça veut dire.
Et notez que l'Union européenne a jugé que le Cameroun avait fait un usage disproportionné de la force pendant ces manifestations.
Ça n'a rien d'étonnant.
Suite à une semaine d'actualité, nous allons continuer notre voyage en Afrique cette semaine et parler maintenant d'une alerte lancée par l'ONU en République démocratique du Congo. Il y aurait un système de fraude, dit l'organisation, qui entrave la distribution de l'aide humanitaire dans certaines zones de l'est du pays. Florence Maurice nous a tout expliqué.
La coordination humanitaire se dit profondément préoccupée par les informations reçues et dit les prendre très au sérieux, mais n'en révèle que les grandes lignes pour ne pas risquer, dit-elle, de perturber l'enquête initiée en novembre dernier. Le communiqué diffusé hier évoque un système de fraude dans la distribution de l'aide humanitaire sous forme de cash, d'argent liquide donc, et de coupons, et révèle que les premiers résultats de l'enquête font état, je cite, d'un réseau impliquant des intervenants à plusieurs niveaux et une utilisation frauduleuse des mécanismes de réponse humanitaire aux dépens des populations les plus vulnérables. Pas de détails en revanche sur l'ampleur de cette fraude ni les zones concernées. L'ONU assure toutefois avoir réagi dès les premières alertes en réunissant les principaux acteurs de l'aide humanitaire, organisations et institutions pour un examen approfondi de ces procédures internes et aussi pour discuter de la mise en place de mécanismes supplémentaires de contrôle et d'audit, sans en dire davantage là non plus. Elle assure aussi que d'ores et déjà des mesures correctives ont été prises sur le terrain pour atténuer les risques de détournement.
Le Soudan, maintenant, Yann, le régime d'Omar el-Béchir fait face à une importante contestation populaire depuis plusieurs semaines. Alors, coïncidence ou pas, il est confirmé par ailleurs que des instructeurs militaires russes sont présents dans le pays, auprès bien sûr de l'armée soudanaise. À Moscou, mardi, retrouvons Daniel Valo.
Des instructeurs travaillent en effet au Soudan, et cela depuis un certain temps. Cette petite phrase, lâchée par le porte-parole du Kremlin, vient confirmer très officiellement une présence que la Russie considère comme parfaitement légitime. Mais Dmitri Peskov refuse d'en dire plus, de préciser le nombre de ces instructeurs militaires et surtout le rôle qui leur est dévolu. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères parle d'instructeurs gouvernementaux et privés, ce qui revient à reconnaître la présence de mercenaires au Soudan. Mais leur rôle, assure Moscou, se limite à la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre du Soudan. Pas question de reconnaître un rôle quelconque dans la répression des manifestations anti-gouvernementales. La semaine dernière, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait ainsi qualifié d'irresponsable un article du journal britannique The Times qui s'interrogeait, lui, sur le rôle joué par les mercenaires russes dans cette répression.
Dites-moi, les mercenaires russes commencent à bien s'exporter en Afrique, après Centrafrique, voici venu le Soudan.
C'est la petite musique de Wagner, puisque le principal groupe de mercenaires russes s'appelle Wagner. Oui, on a entendu parler à propos de la Centrafrique, on en entend parler maintenant. Mais je comprends qu'il y a à la fois des privés et des publics. Et il y a des gens qui sont là à titre de prestataires privés et d'autres qui sont là à titre de prestataires publics dans le cadre de la coopération entre le régime soudanais et le régime soviétique, enfin russe, pardon, en l'occurrence.
Le lapsus est intéressant,
parce que ce sont des vieilles choses. Effectivement,
ce qui est intéressant, c'est que Moscou le dise aussi ouvertement.
Alors Moscou dit, c'est de la coopération militaire normale, elle est là depuis longtemps, ça n'est pas du tout pour la répression. Ce que Moscou dit, c'est une coopération pour former les militaires. Et les militaires ne sont pas censés servir à de la répression contre des manifestations.
Bien sûr, ça s'est jamais vu. Effectivement.
Mais je crois que la porte-parole du Kremlin, que citait Daniel Valo, a parlé d'institutions de force, je crois, qui était donc quelque chose comme ça. Donc on ne sait pas très bien si c'est l'armée, la police, enfin il y a une ambiguïté, mais forcément ils vont dire qu'ils ont le droit après tout, et il y a des coopérants d'autres pays qui aident à la formation de l'armée. Ensuite, ce à quoi le régime bachien utilise l'armée, c'est une autre affaire.
Régime qui connaît quelques difficultés depuis plusieurs semaines.
Des difficultés, notamment des contestations, parce que visiblement ceux qui sont dans la rue ne sont pas les déshérités habituels, les plus pauvres. Ce sont plutôt des classes moyennes, urbaines, donc des gens qui savent manifester, qui sont connectés et qui peut-être sont une plus grande menace pour le régime Bachir que les manifestations sporadiques qui étaient jusque-là, qui étaient un peu plus extérieures aux grandes villes.
Quel regard portez-vous sur la situation aujourd'hui en République démocratique du Congo après l'élection présidentielle et les élections législatives d'ailleurs ?
Eh bien, moi j'ai l'impression que Joseph Kabila a réussi son coup, c'est-à-dire que effectivement Tshisekedi est au pouvoir, mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir la distinction, enfin le fossé, je dirais, entre les élections présidentielles et puis les élections législatives. Donc ça veut dire qu'on a une cohabitation forcée dans laquelle globalement Kabila, qui a placé ses hommes à toutes les institutions importantes, alors là du coup de force, l'armée, les services, etc., va probablement pouvoir continuer à tirer une partie importante des ficelles. Donc c'est pas la version russe du coup Medvedev-Poutine, c'est une autre version, c'est une cohabitation forcée où le vrai pouvoir ne se trouve pas à la présidence, mais probablement plutôt chez le sénateur à vie, je crois, puisqu'il me semble qu'il est sénateur à vie maintenant, Joseph Kabila. Donc c'est effectivement un coup très bien joué. Et alors, la question, c'est de savoir comment, sur le long terme ou sur le moyen terme, va réagir la population congolaise. Est-ce qu'elle va se contenter de cette semi-alternance? Est-ce qu'elle va réclamer davantage? Je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de l'évolution de la situation économique et sociale dans le pays, qui n'est pas très engageante, mais on va voir.
Et toujours cette question lancinante, on en a beaucoup parlé dans cette émission avec vous, Yann, de ces élections sur le continent africain et ailleurs. D'ailleurs, il ne faut pas uniquement viser le continent africain, et des élections qui sont contestées, et d'ailleurs souvent contestables.
Oui, bien sûr, parce que il y a des élections qui sont clairement frauduleuses, mais maintenant, je trouve qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui ont appris à faire des élections, je dirais, demi-frauduleuses,
oui.
Dans lesquelles, effectivement, ils ne gagnent pas les 95% du passé, ou les 98% de Ben Ali, ou des choses comme ça, mais on gagne un petit 60%, 65%, 70%, donc ça donne l'impression qu'il y a un peu de place pour l'opposition. Donc tout est dans le dosage. Maintenant, le curseur a été mieux réglé, je dirais, en termes de communication, pas en termes de démocratie, bien entendu, mais en termes de communication.
Merci Yann Mince. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales alternatives économiques. On se revoit bientôt dans l'émission.
Avec plaisir.
On continue le bon rythme que nous avons depuis des années. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain, nous vous retrouvons demain pour le magazine Idées bien sûr. Et avec le philosophe Michel Onfray, il sera parmi nous. Il publie Sagesse, un éloge des philosophes romains à ne pas manquer. Donc Michel Onfray, demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.